Ce premier dimanche de carême est appelé dimanche de la tentation, puisque, comme je viens de le lire, on écoute le récit de la tentation de Jésus au désert. C'est au tout début de son ministère apostolique, son ministère d'annonce du royaume, il est d'abord tenté. Donc ça peut être une belle occasion pour nous, à l'intérieur de ce carême, de parler un peu de ce qu'est la tentation et quels sont les différents styles de tentation. La tentation, ça vient par l'imaginaire. C'est le démon qui nous fait penser que si l'on pose tel acte, si l'on dit telle chose, eh bien, on sera plus heureux. Derrière ça, il y a toujours une quête de bonheur, mais de bonheur factice. Il faut bien le comprendre. Et on voit bien dans le récit biblique du livre de la Genèse, l'aspect désirable est le fruit savoureux. Et si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Oui, on voit que le démon s'insinue en nous, en nous montrant que, au fond, quelque chose serait un vrai bien, alors qu'au fond, ça nous laisse un goût amer. Et cette tentation, évidemment, à nous d'être attentifs, parce qu'on peut aussi avoir une attitude d'une certaine légèreté ou de se laisser trop... On a des lieux de fragilité dans nos psychologies, parce que ça rejoint aussi l'aspect psychologique. Dans nos psychologies, on a des failles. Quelqu'un qui serait en manque affectif, très désireux d'être valorisé, ben peut-être sa tentation sera précisément de passer de bras en bras ou de sans cesse être au centre. Alors que l'amour consiste à se décentrer, par exemple. Et on voit bien que par rapport à notre manière d'être, il y a comme une vigilance à avoir. Il y a une vigilance et chacun a une vigilance différente de par son histoire et de par sa psychologie. Mais ça vient toujours dans l'imaginaire. Quel est l'imaginaire qui parfois me présente à ma volonté des objets de désir, mais qui ne sont pas, au fond, source de bonheur. Et on voit bien la différence entre la tentation et le péché. La tentation, ça, c'est ce qui est en amont. C'est que je sais que si je vais dans cette direction-là, il est probable qu'ensuite je passe à l'acte. Une tentation n'est pas un péché. Le péché demande un passage à l'acte. Que ce soit en parole, la critique par exemple, la calomnie, en pensée, j'entretiens des pensées violentes sur quelqu'un, de haine, par action, je pose des actes. Par omission, et vous savez très bien ce que ça veut dire par omission, c'est-à-dire il y a un bien à faire que je ne fais pas. Ce n'est pas omission, j'ai oublié mon portefeuille. Ce n'est pas ça par omission. Omission, c'est il y a un bien à faire. J'ai vu la dame chargée d'un cabas pesant qui traverse la route. Je suis un homme fort et bien bâti. Je peux l'aider. Ça me saoule. Pardonnez-moi l'expression. Et je continue ma route. C'est ça par omission. C'est un bien qui pourrait être fait. Et par manque de courage, par manque d'amour, je laisse de côté ce bien pour mon propre égoïsme. Et donc, c'est intéressant de voir que ces péchés, au fond, sont précédés toujours par une tentation. Et l'Écriture nous parle de trois formes de péchés. C'est assez intéressant. Et de trois formes de tentation aussi, par conséquent, autour desquelles tous les péchés, d'une manière ou d'une autre, se rattachent. La première tentation et les péchés qui vont avec, ce serait de l'ordre du sensible, du plaisir immédiat, du plaisir désordonné. Le plaisir, il n'est ni bon ni mauvais, il est en nous. Heureusement qu'on a du plaisir à boire, à manger, heureusement on a les époux ont du plaisir à s'unir, etc. Alors, c'est fait par Dieu, mais ce n'est pas là la question. La question dont il s'agit, c'est le plaisir comme objectif, comme finalité. Et on voit bien que Jésus, après 40 jours et 40 nuits, et vous savez que 40 dans la Bible, ça signifie une nouvelle naissance. Hein, les anciens mesuraient les grossesses en disant c'est 40 semaines d'aménorrhée. Et donc 40, dès que vous voyez 40 dans la Bible, tilt, ça veut dire naissance. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle naissance après ce combat spirituel. On renaît à nouveau. Et donc là, on voit Jésus qui est tenté, et on peut l'être après 40 jours et 40 nuits de jeûne, par le démon, par le diable. Petite précision, il y a deux erreurs concernant le diable. Ne jamais en parler ou toujours en parler. Deux erreurs. Le diable, ça fait partie clairement de notre foi. Il est mentionné et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est absolument certain. C'est une créature. Contrairement à ce que pensaient les manichéens qui disaient qu'il y a le dieu du bien et le dieu du mal, nous ne croyons pas ça. Il n'y a qu'un seul dieu. Le mal, le démon est un esprit de lumière. Lucifer, celui qui porte la lumière, en latin, c'est ça que ça veut dire. Voilà, et qui s'est détourné de Dieu. Il y a une épreuve. Il y a une épreuve pour suivre Dieu. Et c'est une hypothèse théologique, mais on se dit, parce que quelle est l'épreuve ? Nous, pour nous, on voit bien l'épreuve dans le livre de la Genèse. Accueillir l'interdit de Dieu. Tu peux manger de tout, sauf quelle a été l'épreuve pour le démon et les anges et les archanges ? Certainement, le fait d'accueillir, on le suppose, d'accueillir le plan de l'incarnation. Comment Dieu, qui a une nature infiniment supérieure aux anges qui eux-mêmes ont une nature absolument sans commune mesure avec la nature humaine, comment peut-il prendre la nature humaine? Et on pense, en tout cas c'est assez de tradition dans l'Église, mais de tradition séculaire, que cette épreuve-là, c'est les anges face au plan d'incarnation du Verbe dans la personne du Christ, dans Marie qui prend chair en Marie et qui se révèle à nous comme Jésus-Christ. Donc il y a une épreuve. Il y a une épreuve, et donc le démon tente, et tente, comme je vous l'ai dit, par l'imaginaire. En fait, c'est aussi trois idoles. C'est les idoles qu'on va voir là. À la fois les plaisirs désordonnés, à la fois l'amour du pouvoir et à la fois l'amour des richesses. C'est trois idoles. Et à quoi est-ce qu'on reconnaît une idole? Parce qu'il faut bien la détecter. L'idole, on la reconnaît au fait qu'on n'a pas de repos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idole nous réclame plus. Et plus, et plus, et plus. Je peux toujours aller dans des plaisirs désordonnés, et on voit la fin de l'Empire romain avec les vomitoriums, etc. Bon, je peux toujours vouloir plus de pouvoir, toujours avoir ce désir d'accumulation de biens. Et on voit qu'il n'y a pas de repos. Il y a la différence de Dieu qui est notre repos, qui est notre Shabbat. Et donc, c'est intéressant dans cette première tentation qui vient toucher en nous quelque chose très lié au corps, que sont les plaisirs, du pain, etc. Voilà. Et comment est-ce qu'on combat ? Comment Jésus combat ? Eh bien, il combat avec la parole de Dieu. Vous regarderez dans vos petits livrets, toujours, c'est la parole de Dieu qui va servir pour remettre les choses dans l'axe. Est attaché à la tentation un mensonge. Le démon est père du mensonge, est attaché à un mensonge. Ça, c'est important, est toujours un mensonge. Il y a peu de temps, j'ai confessé une personne, il m'a dit, il m'arrive de mentir, etc. Et c'était comme une habitude, il m'a dit, mais ce n'est pas des gros mensonges. Mais il n'y a pas de petits mensonges. Ça n'existe pas. C'est vrai ou c'est pas vrai. On te demande si tu as fait quelque chose, c'est oui ou c'est non. Et donc, le Seigneur nous demande vraiment d'être dans la vérité. Et là, voilà, on voit Jésus qui répond avec la parole de Dieu. Dieu lui-même est lumière, Dieu lui-même est vérité. L'homme ne vit pas seulement de pain. Ça veut dire aussi que quand on se sent attaqué intérieurement, et le combat, et le carême, c'est le lieu du combat spirituel, du combat contre soi-même, vins-toi toi-même. C'est le conseil de tous les saints. Eh bien, comme c'est important d'avoir parfois des paroles qui nous viennent, des prières comme ça auxquelles on se raccroche, on dit, mais Seigneur, voilà, je crois en toi, j'ai foi en toi, acquérions-nous, etc. Des paroles qui nous viennent de la parole de Dieu, parce que cette parole de Dieu, elle est vivante. Et puis ensuite, on voit le démon qui emmène au sommet du temple. c'est-à-dire au sommet du lieu de la présence de Dieu, au-dessus de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Je me mets au-dessus de Dieu. Parce que soit je crois en Dieu, soit je me prends pour Dieu. Alors, je ne vais pas dire comme ça, je prends pour Dieu, sinon je vais terminer à l'asile. Mais au fond, ça revient à ça. Par exemple, ne pas avoir de vie de prière, c'est se prendre pour Dieu. C'est très clair. Parce qu'au fond, je dis, je n'ai pas besoin de ce contact personnel avec le Seigneur. Alors, je ne le dis pas comme ça, je ne le formule pas aussi brutalement. Mais dans les faits, ça veut dire ça. De façon très sympathique, très douce, etc. Mais dans les faits, de dire, quelque part, je vis très bien sans Dieu. Donc, je me prends aussi comme la source de mon agir, la source de mes réflexions, et non pas je me mets à l'écoute du Seigneur quand est-ce qu'il peut aussi m'inspirer et me donner mettre dans mon cœur un désir. Et donc on voit bien cet orgueil de l'esprit. C'est les trois formes d'orgueil. Les trois formes de tentation, c'est les trois formes d'orgueil. L'orgueil de l'esprit. Hein. Si tu es fils, jette-toi en bas, je veux dire, il donnera. Et puis le pire, c'est que le démon tente avec la parole de Dieu. Non seulement il tente avec sa propre parole, mais en plus avec la parole de Dieu. Vous verrez, hein, il donnera pour toi des ordres à ses anges. C'est le psaume. Et Jésus qui répond, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Il répond aussi avec la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que c'est parole de Dieu que s'il n'y a pas une interprétation juste, qui est dans la communauté, qu'on est vraiment à l'écoute du Seigneur. Il peut y avoir, et on le voit, que le démon se fait passer pour un ange de lumière sous des couverts spirituels. Sous des couverts spirituels. Donc il faut toujours valider l'explication de la parole de Dieu, l'interprétation. Et puis le dernier, on connaît, voilà, c'est les royaumes, leur gloire, l'accumulation des richesses, etc. Évidemment, alors à la fin dans Saint-Luc, moi je préfère quelque part, bon la liturgie nous donne Saint-Matthieu, mais je préfère Saint-Luc. Dans Saint-Luc, à la fin il dit, ayant épuisé toutes les formes de tentation, le démon le quitta. Jusqu'au moment favorable qui est au fond le moment de l'agonie, où là il sera tenté à nouveau, où il y aura aussi le lieu, la présence des anges. Intéressant, c'est que les anges viennent, et l'ange de l'agonie, à quoi sert un ange? Pas seulement à trouver une place de parking quand on tourne dans Paris encombré. Hein, l'ange, il sert aussi à éclairer notre intelligence, hein, pour lutter justement contre les tentations que nous adresse le démon. Et je trouve c'est bien d'avoir recours à son ange justement et de dire aide-moi à discerner, il y a des choses où on est empêtré dans la matière, je dis, on ne va pas plus loin que notre nez, l'ange voit jusqu'au bout de ses décisions, jusqu'aux dernières conséquences de ses actes. Donc c'est intéressant de voir la présence des anges ici et de voir aussi l'ange de l'agonie, hein, agonie, agonia en grec ça veut dire combat spirituel. Alors on voit que par rapport à ça, il y a les trois conseils évangéliques de chasteté, c'est trois conseils pour tous ceux qui veulent vivre l'évangile, quel que soit leur état de vie. Chasteté, il existe une chasteté matrimoniale, hein, une juste distance par rapport au corps de l'autre, hein, une certaine obéissance qui s'oppose à l'esprit d'orgueil, obéissance à la parole de Dieu, obéissance à l'Église, obéissance mutuelle au sein du mariage pour ceux qui sont mariés, obéissance aux événements, aux circonstances et nécessités qui sont autant de maîtres spirituels. Et puis pauvreté, c'est-à-dire une certaine modestie dans l'utilisation des biens. Même si d'aventure, eh bien, vous êtes doté d'une fortune assez considérable, il peut y avoir une manière modeste, non pas le m'as-tu vu, hein, qui veut afficher et qui quelque part se préoccupe de sa fortune, hein, comme de son propre cœur, du centre de sa vie. Alors oui, frères et sœurs bien-aimés, ces trois tentations, ces trois conseils évangéliques, hein, qui nous interpellent au début du carême, ce serait bien, durant ce temps de silence, qu'on puisse se poser la question, quelle est, disons, sur quoi vais-je faire porter mes efforts pendant le carême ? On ne peut pas tout réformer en nous, ce serait bien, mais la réalité fait qu'on ne peut pas. Donc, sur quoi un point, et qui rejoint forcément ce que je viens de dire et les tentations que Jésus a vécues au désert, un point en particulier que je vais travailler pendant ce carême, de façon à être libre intérieurement, parce que derrière ça, derrière ce combat spirituel, c'est une école de liberté. Le démon, il ne nous rend pas libre. Quand je suis tel le hamster dans sa roue, cherchant du plaisir, cherchant du pouvoir, cherchant de l'argent, de l'accumulation, voilà, je suis complètement prisonnier de moi-même. Alors demandons au Seigneur vraiment qu'il nous aide avec sa parole, qu'il nous aide avec ses sacrements. Prions aussi les uns pour les autres pour vivre un carême authentique.